Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Je voudrais vous présenter quelques bilans bibliques, quelques bilans qui sont dans la Bible. Et rapidement, nous placer devant ces textes et nous poser la question, quel sera mon bilan? Ça ne concerne pas seulement les plus âgés d'entre nous. Même quand on est jeune, il faut déjà penser au bilan. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Et puis, le texte continue. Livre ton cœur à la joie, etc. Dieu n'est pas contre. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il y aura donc un grand bilan, un grand moment qui se passera devant le trône de Dieu et le bilan sera fait. Alors, je voudrais commencer par un texte que je tire du prophète Daniel. Daniel, chapitre 5, venez avec moi, au verset 25. On pourrait commencer notre lecture au verset 22. « Toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu saches toutes ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servi pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes, tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Méné, méné, tekel, parsin, ça veut dire compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots, compter. Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Amen. J'ai appelé ce premier bilan le bilan de l'orgueilleux. Le bilan de l'homme qui a passé sa vie à ne pas tenir compte de Dieu, quoique il y a eu des avertissements, il y a eu des warnings, il y a eu des clignotants qui se soient allumés déjà du temps de son père. Cet homme, ce roi, malgré le fait que sa position est élevée, malgré le fait qu'il a le monde entier de l'époque sous sa main, il n'a pas rendu gloire à Dieu. Plus que cela, il a franchi la ligne qu'on ne devrait pas franchir. Il a utilisé ce qui revenait à Dieu, au culte réservé à Dieu, pour donner à boire à ses concubines, à ses copains, à ses amis, pour faire la fête, et quand je dis fête, c'était plutôt l'orgie. Alors une main apparaît et écrit sur le mur trois mots. Compter, peser, diviser. C'est sûr que devant cette intervention divine, l'orgueilleux qu'il est, la Bible dit que quand il a vu ça, ses reins se sont relâchés. Excusez, ça veut dire ce que ça veut dire. Il a fait pipi dans sa culotte. Ses genoux se sont mis à jouer les castagnettes là. Il a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il vivait sans Dieu, sans se soucier de Dieu. Il vivait même en méprisant les choses de Dieu. et il a rencontré un bout de main qui lui a dit, voilà ton bilan, le bilan de l'orgueilleux. Comptez, Dieu met un terme à ton règne. Ça y est, c'est fini. Pesez. Dans la balance, tu es particulièrement léger. Et puis divisé. Ce que tu as pris tant de soin à construire va être divisé et distribué aux Mèdes et aux Perses. Il va mourir. La nuit suivante, il va être tué. La nuit suivante, les Mèdes et les Perses vont envahir sa ville et vont s'emparer de son royaume. Cet orgueilleux qui pensait que sa ville était imprenable, c'était quelque chose, hein, une des sept merveilles du monde. En fait, les Mèdes et les Perses ont asséché l'Euphrate, ont détourné le fleuve, et par l'ouverture sous les murailles, parce que la muraille enjambait le fleuve, eh bien, ils ont pu rentrer dans la ville. De nuit. C'était terminé. Quand Dieu dit fin, quand Dieu dit stop, l'homme ne peut rien rajouter. Pas un quart d'heure, pas une minute de plus, il se retrouve devant Dieu. Moi, je suis toujours touché quand j'apprends que trois jeunes filles sur l'autoroute A7, pas loin d'ici, cette semaine, ont été écrasées par des voitures en essayant de franchir l'autoroute. Alors que le patrouilleur leur avait dit de pas le faire, les avait prévenus. Je suis étonné quand je vois la capacité que l'être humain a de ne pas écouter les avertissements. On entendait dimanche dernier ce bon message sur la sentinelle et sur son rôle et bien sûr son message. Mais qu'est-ce qu'on fait des avertissements? Qu'est-ce qu'on fait des avertissements que Dieu nous envoie? Et je voudrais, frères et sœurs, que en ce jour de bilan, on dise, Seigneur, donne-moi un cœur sensible, docile, à l'écoute de tes avertissements. Quand Dieu nous avertit, c'est pas pour nous condamner, c'est pour nous aider, nous secourir, parce qu'il nous aime. Quel est le papa, la maman qui n'a pas dit à son garçon, ne touche pas, ça brûle. Mais quel est le garçon qui a quand même pas mis la main? On est ainsi fait que, malgré les avertissements bibliques, on a envie de franchir la ligne. On a envie quand même d'essayer. On s'est tous brûlés. On est tous pécheurs. Et on a tous compris pourquoi Jésus était mort sur la croix. Alors ce que je veux mettre dans mon bilan, c'est pas l'orgueil, c'est l'humilité. Ce que je veux mettre dans mon bilan, ce que je t'invite à mettre, mon frère, ma sœur, dans ton bilan, c'est l'humilité. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, vous connaissez le verset, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Mettez au bilan l'humilité. Là, il y a du poids aux yeux de Dieu. Là, c'est une valeur qui demeurera dans l'éternité. Un autre texte se trouve dans le prophète Agée. Un petit prophète. Agée, chapitre 1, verset 9. Je l'ai appelé le bilan de l'égoïste. Le bilan de l'égoïste. Agée, chapitre 1, verset 9. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, la terre a refusé ses produits, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Voilà une génération du temps du prophète Agée qui a, je les appelle les égoïstes, qui ont d'abord pensé à l'ego, à eux. Ils ont travaillé pour eux. Ils ont pensé à eux d'abord. Alors que la parole de Dieu nous dit de chercher premièrement, de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, eux ont pensé d'abord à eux. Et je pense que ce bilan nous concerne tous aussi quelque part. L'égoïsme peut tout à fait trouver place, trouver demeure dans nos cœurs. Je crois que il y a quelque chose qui est important dans la parole, c'est que nos œuvres, ce qu'on fait, non pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé, ce qu'on fait va nous suivre. Au bilan éternel, devant Dieu, les robes de fin lin sont les œuvres justes des saints. Et il faudra paraître vêtu et non pas nu. Le premier vêtement blanc qu'il nous donne, c'est bien sûr le vêtement du salut. Mais je te conseille d'acheter de moi, dit l'Écriture à une certaine église dans l'Apocalypse, des vêtements blancs. Il faut avoir de l'étoffe, de l'épaisseur. Et le bilan de l'égoïste, vous avez lu comme moi, il comptait sur beaucoup, et quand il a fait ses comptes, il n'y avait pas grand-chose. Il la rentré à la maison et l'Éternel a encore soufflé dessus et en restait encore moins. Vous savez, c'est un mauvais calcul de mettre Dieu à la fin du budget. Mettez-le en premier. Comprenez que il y a un Dieu qui s'engage dans la parole et qui dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Frères et sœurs, notre rapport à l'argent indique bien où nous en sommes avec le Seigneur. Et je vous invite à vraiment considérer le bilan de l'égoïste. Il ne lui reste pas grand-chose. Vous savez, quand on se convertit, j'ai écrit sur mon papier, quand on se convertit, on fait des économies. Je fumais, je ne fume plus. Je buvais, je ne bois plus. Je me droguais, je ne me drogue plus. J'allais dans certains lieux, j'y vais plus. Je jouais, je ne joue plus. J'ai fait d'énormes économies. Et quand je conseille des frères et sœurs qui font appel à moi concernant le budget, je peux vous dire que là, il y a des économies à faire. Et une fois le budget rétabli, saint, S-A-I-N, et S-A-I-N-T, eh bien, Dieu a tout à fait sa place. Faites la somme de toutes les économies que vous avez faites quand vous vous êtes converti. Et puis demandez-vous, qu'est-ce que je fais avec toutes ces économies? La Bible dit que concernant le jeûne et la prière, il faudrait, si on voulait aller au bout du raisonnement biblique, consacrer le prix du repas que nous n'avons pas pris, le consacrer à une œuvre chrétienne. Ce serait vraiment aller au bout de la démarche. Je crois que le Seigneur veut nous délivrer de l'égoïsme. Lui d'abord, s'il est le premier, s'il passe en premier, si c'est pas moi le petit Dieu de la maison, mais si c'est lui, mon Seigneur et mon Dieu, alors j'aurai un bon bilan. Au bilan, mettez la charité, mettez la générosité, et votre bilan aura du poids. Un troisième texte. Dans Matthieu, au chapitre 18, voici le bilan de celui qui ne voulait pas pardonner. Vous entendez le bilan de celui qui ne voulait pas pardonner. Matthieu 18, verset 23, nous lisons ceci. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte, toujours cette notion de rendre compte, à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Il a fait une croix sur la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te payerai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette ». Parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Le bilan de celui qui ne veut pas pardonner, alors qu'il a été pardonné, lui-même, alors qu'on lui a remis sa dette, il ne veut pas remettre la dette qu'on lui doit. Et vous avez comparé les chiffres, rien à voir entre ce qu'il devait au maître, 10 000 talents, et 100 deniers. C'est drôle qu'on oublie très vite qu'on a été pardonné. C'est drôle comme on oublie très vite que s'il n'y avait pas eu Jésus, la croix, quelqu'un qui nous annonce l'évangile, le cadeau de la repentance, la foi dans nos cœurs, la conviction de péché, la conversion et la nouvelle naissance, s'il n'y avait pas eu ça, mais on serait perdu. Alors, on te marche sur l'orteil droit ? On t'a un petit peu froissé cette semaine ? Défroisse-toi. Pardonne à ton tour, et puis demeure dans le pardon. Celui qui refuse de pardonner s'expose à se trouver un jour devant Dieu et à s'entendre les mêmes paroles, méchant, méchant serviteur. Je t'avais remis ta dette, tu pouvais pas pardonner. Pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné. Au bilan, mettez le pardon. Mettez le pardon, pratiquez le pardon, décidez le pardon. Le pardon n'est pas une émotion. Je te pardonnerai quand j'en sentirai l'envie. Oui, ben vous pouvez attendre, hein. Ça viendra pas vite, l'envie de pardonner. Par contre, parce que la Bible le dit, pardonnez-vous réciproquement, je prends la décision de te pardonner. Et je vais demeurer dans cette attitude de cœur. Mettez le pardon au bilan. Si vous voulez que dans la balance de Dieu, vous ne soyez pas trouvé léger, mettez le pardon, exercez le pardon. Ça fait déjà 3 bilans. L'orgueilleux, l'égoïste et celui qui refuse de pardonner. J'aimerais encore vous lire ce texte de Luc, chapitre 16, où l'on trouve un homme. C'est étrange comme texte. Je me suis arrêté un peu dessus, j'ai dit, oh là, souvent les chrétiens ont du mal avec ce genre de texte. Encore un bilan, Luc 16, verset 1er. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte, vous voyez toujours la même expression, rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. On dirait aujourd'hui, t'es viré, t'es licencié. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens. Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison, quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 mesures d'huile, répondit-il. » Il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite, et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu » 100 mesures de blé, répondit-il. » Et lui dit, « Prends ton billet, et écris 80. » le maître. Et c'est là qu'on a du mal. Loua l'économe infidèle, non pas parce qu'il avait été infidèle. C'est là qu'il faut rétablir les choses. On n'est pas devant un texte qui nous permet de faire n'importe quoi. Mais il loue l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Mettez la prudence au bilan. Mettez ce côté avisé, c'est le bilan de l'homme avisé. Ces magouilles ont été découvertes, on a rapporté les choses au patron. Le patron le convoque en entretien de licenciement. Elle dit « Qu'est-ce que j'apprends ?» Et pendant le temps du préavis, l'homme fait venir les débiteurs et remet des portions de dette importantes, 50% pour l'un, 20% pour l'autre. Alors je vous déconseille d'en faire autant, mais je veux juste qu'on retienne que c'est sa capacité à anticiper l'avenir qui est là soulignée. Mettez au bilan la prudence qui prévoit. C'est pour ça que réussissent tous les vrais financiers. Les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de lumière. Vous avez entendu? Alors, Seigneur, je veux mettre aussi au bilan ce côté avisé, prévoyant, prudent. On ne sait pas ce dont sera fait demain. Et on est content d'avoir un petit matelas. Non pas qu'on ait une assemblée qui, a pour vocation de remplir les comptes épargne. C'est pas notre but. Mais on gère l'Église en bon père de famille. Et tout comme bon père de famille prévoit quand même, enfin j'espère, une poire pour la soif, un petit compte épargne quand c'est possible, sur lequel on met un petit peu comme ça de temps en temps, pour que le jour où il y en aura besoin, eh bien, on soit pas surpris. C'est de la prudence. On vit dans un monde dangereux. On vit avec des pubs qui nous bombardent. Acheter sans rien payer. Quel mensonge. Vous repartez avec, vous n'avez pas sorti la carte bleue, pas le chéquier, rien. Vous repartez quand même avec le micro-ondes. Oh, vous allez payer dans 3 mois. Puis regardez en bas le taux d'intérêt. Ça fait peur. Vous savez, à la banque, quand j'y étais, des fois il fallait dire aux clients, on vous refuse le prêt. Parce que les gens étaient incapables de faire leur propre budget. Et on ne dépassait pas 30, 33%, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, de taux d'endettement. Parce qu'au-delà, on ne peut plus vivre. Il y avait des gens qui venaient avec 50%, 60%, 70%. J'ai trouvé quelqu'un un jour qui avait 100%. Il avait 12 000 francs à l'époque. Et c'était quand même un beau salaire à l'époque. 12 000 francs de salaire. Et quand j'ai cumulé tous les crédits qu'il avait, c'était un chrétien de l'Église. J'en ai honte. Il y avait une douzaine de cartes bleues, de prêts qu'on appelle revolving, un peu revolver, vous savez, qui vous assassine avant de que le crédit soit terminé. Quand j'ai fait le total des 12 ou 13 crédits, j'en avais pour près de 13 000 francs. Donc il était endetté à plus de 100%. Vous savez, ce qui s'est passé, la crise des subprimes aux États-Unis, c'est exactement ça. On a permis aux gens d'acheter leur maison en leur disant « Mais vous allez y arriver, pas de problème ». On s'est fait du beurre, hein, on s'est rempli les poches, puis après on est allé voir les gens et dit, maintenant faut payer. Et ils n'ont pas pu payer. Et ces produits toxiques, ces produits financiers toxiques, on les a vendus sur le marché sous forme d'actions, d'obligations, complètement pourries, empoisonnées. Et ceux qui ont acheté ces actions, ces obligations, se sont retrouvés avec des bouts de papier qui ne valaient plus rien. Voilà, un peu très rapidement brossé, ce qui s'est passé depuis 2008. Eh ben, quel bilan. Demandez à la Grèce. Demandez à l'Europe. Demandez aux États-Unis. Et quand même, faisons attention. Soyons prudents. Si tu gagnes, je sais pas, 1000 euros, mais n'en dépense pas 1200. Je crois que le bilan de l'homme avisé est donc, réside dans sa capacité à anticiper l'avenir, à le préparer. Mettez à votre bilan la prudence, la sagesse, le côté avisé, et Dieu vous bénira. Et puis je vais terminer par un texte que j'emprunte à l'apôtre Paul. Quand il écrit à Philémon, alors c'est une très petite épître, mais avec un grand enseignement. Il écrit à Philémon, laissez-moi le temps de retrouver Philémon, voilà, au verset 18, hein, il n'y a pas 36 chapitres, il n'y en a qu'un. Philémon est un chrétien bien-aimé, un compagnon d'œuvre de Paul, et il avait un serviteur qui s'appelle Onésime, qui s'était enfui de chez lui, un mauvais garçon, et qui avait finalement été rattrapé pour ses forfaits, et qui avait été mis en prison, imaginez où ? Dans la cellule de l'apôtre Paul. Le monde est petit, hein. Et dans la cellule de l'apôtre Paul, merci Seigneur, Onésime se convertit. Et Onésime va être libéré ensuite et Paul va l'accompagner d'une lettre, et c'est la lettre à Philémon. Il le renvoie vers son maître. Et je voudrais juste vous faire remarquer le verset 18. Versets 17 et 18. « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. » S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Mets-le sur mon compte. C'est le bilan de l'amour fraternel. C'est le bilan d'un homme qui pourra dire à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Le bilan de l'amour. L'amour couvre les fautes. L'amour prend à son compte la faute de l'autre et couvre. S'il t'a fait quelque tort, s'il te doit des sous, mets-le sur mon compte et je paierai. Mettez cela aussi à votre bilan. Mettez ça aussi. Mettez l'amour à votre bilan. Et quand les comptes seront tenus, puisque la Bible dit, je conclurai par là, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors, je crois qu'à ce moment-là, peser, ou compter, peser, diviser, cette parole, eh bien, pourra nous faire réaliser que dans la balance de Dieu, eh bien, on a du poids. On devra rendre compte de nos talents, de ce qu'on a fait de nos talents, Matthieu 25. Ne pas cacher nos talents, mais les faire valoir. On devra rendre compte, dit la parole de Dieu, Matthieu 12, 36, de toutes les paroles prononcées. Oh là là, même celles que j'ai dites à la maison ? Oui. Même celles que j'ai dites tout seul, là, dans mon bureau, dans ma salle de bain ? Oui. On rendra compte à Dieu. Le psaume 90 nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Ça ne veut pas dire 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire à bien remplir nos journées afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Seigneur, merci. parce que tu nous avertis, ta parole nous permet, Seigneur, de comprendre que bientôt les livres seront ouverts, les bilans seront faits. Et nous voulons, Seigneur, te remercier de ce que déjà nous pouvons mettre à ce bilan le précieux sang de Jésus qui nous a purifiés de tous nos péchés. Nous voulons, Seigneur, qu'à ce bilan s'ajoute la charité, l'humilité, la prévoyance, la sagesse, la prudence. Seigneur, merci, merci de nous aider, en tant qu'assemblée aussi, à avoir chaque année un bon bilan spirituel. Merci, Seigneur, pour les âmes nouvelles que tu nous donnes, pour les baptêmes qui ont eu lieu. Merci, Seigneur. Amen.